Oui, Vincent, tu as vraiment dit quelque chose qui est important et qui va correspondre au message qui m'a été donné pour aujourd'hui. Oui, le Seigneur veut nous emmener vers des chemins que l'on ne connaît pas encore, que l'on n'imagine pas. Mais avant tout cela, je voudrais avoir un moment de partage avec vous et une pensée, une prière pour nos frères et sœurs de l'église du Blanc-Mesnil, le pasteur de Beauvais m'a envoyé un message hier. Leur bâtiment, le bâtiment où ils se réunissent, a été entièrement détruit par un incendie hier. Donc ils n'ont pas, comme nous, la possibilité de se réunir dans un espace abrité, chauffé. Je pense qu'ils vont le faire chez eux, se regrouper. En tout cas, je leur souhaite et vraiment que le Seigneur les bénisse et les accompagne dans cette épreuve. Oui, parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose de difficile que l'on a du mal à imaginer. Et se retrouver sans toit, sans chauffage, sans espace pour se réunir, pour louer le Seigneur. Alors, ce matin, avant de partir, j'ai été touché par ce verset qui est dans Éphésiens 5, Éphésiens 5, verset 17. Ce verset nous dit: C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et je me suis dit, aïe, 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 c'est vraiment quelque chose que l'on doit malaxer en nous, quelle est sa volonté? C'est vrai qu'en ce début d'année, le monde se pose des questions et on pourrait dire c'est normal. C'est la situation dans laquelle le monde est qui veut cela, se poser des questions. Et je me suis dit, dans cette situation, quel est le rôle de l'Église? Et tout d'abord, l'Église, c'est quoi? Alors je sais, on en a parlé souvent, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le lieu où on se réunit. L'Église, c'est nous. C'est nous l'Église. C'est vrai que l'on pourrait se réunir à l'extérieur, en pleine forêt ou à la campagne, dans un champ, et nous serions l'Église. L'Église, c'est nous. Nous en sommes les pierres vivantes. Et ce mot est important, vivante. Dans 1 Pierre 2, le verset 5, il nous est dit, 1 Pierre 2, verset 5, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors le mot édifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire, bâtir. Nous devons bâtir en nous une maison spirituelle. Mais tous ensemble, nous devons bâtir la maison du Seigneur. Alors, si une église se construit petit à petit, spirituellement, chaque dimanche, c'est pourquoi? C'est pour glorifier Dieu. C'est pour l'honorer, pour le remercier, parce que on a un toit, on peut se réunir, on est au chaud. Et puis, il a envoyé son Fils et nous sommes sauvés. Nous savons que par lui, après la mort physique, nous avons une autre vie et que celle-ci, elle est éternelle avec lui. Alors, glorifier Dieu, c'est quoi ? C'est le louer, le célébrer sa grandeur. C'est ça le glorifier. Le remercier. C'est vrai que c'est un des rôles de l'Église. C'est vrai qu'on est là pour ça. Alors, tout à l'heure, je disais pierre vivante. Dimanche dernier, Lionel nous a dit que nous n'étions pas des briques sorties d'un moule, des briques toutes identiques. Je dirais presque sans identité, d'ailleurs. Clonées, en quelque sorte. Non, nous sommes des pierres. Nous avons des formes différentes. Nous sommes différents les uns des autres. Ça, c'est sûr. Nous ne sommes pas clonés. Mais nous sommes des pierres qui s'ajustent parfaitement. Qui s'ajustent parfaitement lorsqu'on a rencontré le Seigneur. Alors, c'est vrai que parfois, trouver sa place dans l'édifice, ce n'est pas évident. Puisqu'on a des formes différentes. C'est vrai que dans une construction, dans un mur, il y a par exemple les pierres de parement, celles qui sont apparentes, qui sont bien taillées, bien ajustées, qui sont belles à voir. Et puis, il y en a d'autres, c'est les pierres de remplissage, je dirais, mais elles sont importantes parce que c'est elles qui donnent la solidité à l'édifice. Elles sont à l'intérieur des pierres de parement. C'est comme ça que sont construites les murailles des châteaux forts, des forteresses. Et nous sommes une forteresse en Jésus. Alors si vous vous dites, ouais mais moi, je suis petit, j'ai une forme bizarre, non, mais vous avez votre place. J'ai ma place. Je ne sais pas si je suis une pierre de parement, je suis sûrement une pierre de remplissage, et quelque part ça m'arrange, je vais vous dire pourquoi. Parce que la pierre de parement, c'est celle qui est attaquée en premier. La pierre de remplissage, elle est bien à l'abri, hein. Elle est protégée par les pierres de parement. Oui, il faut tout cela pour faire une muraille solide, pour être des pierres vivantes. Je m'égare un petit peu là, je voudrais revenir au rôle de l'Église, à notre rôle, puisque nous sommes les pierres vivantes, nous devons agir. Alors c'est vrai que le premier rôle, on en a parlé, on l'a fait, là. On a loué le Seigneur, on a chanté ses louanges, on l'a remercié. On l'a remercié parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous. Enfin je l'espère pour... C'est votre cas pour tous. Et être réunis, être cette muraille avec toutes nos différences, pierre de parement, pierre de remplissage, c'est en fait le deuxième rôle que l'on a. C'est se fortifier les uns les autres, s'exhorter. Dans Colossiens 3, verset 13, il nous est dit, supportez-vous les uns les autres. Verset 14, je pense qu'il est important aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Est-ce que nous sommes des pierres vivantes, parfaites, liées par un lien d'amour ? Dans Hébreux 10, les versets 24 et 25, il nous est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Là encore, il est question d'amour. Alors, c'est vrai que nous sommes dans des temps difficiles, où, comme je disais au début, il y a plein de questions. Le verset 25 nous dit, et je pense qu'il est vraiment important, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » La référence, c'est Hébreux 10, 25. Or, le jour s'approcher, eh bien, c'est celui du retour du Seigneur. C'est évident. Enfin, pour moi, ça l'est. Alors, moi, je vous dis, restons groupés, restons une muraille solide, dans la louange, autour du Seigneur. Je dirais que le rôle de l'Église est équivalent à celui d'une forteresse, où l'on vient se réfugier, se protéger. Oui, mais pas seulement. Dans le verset 24, il y a une chose qui nous est dite. On nous parle de l'amour, mais on nous parle aussi des œuvres bonnes. Que signifie le mot « œuvre » ? Parce que des fois, on l'emploie comme ça, mais son sens. Les œuvres, c'est le résultat du travail, de l'action. On parle de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce sont tous les actes, les vertus chrétiennes. Les bonnes œuvres, c'est l'organisation. C'est des organisations à but non lucratif et qui se proposent de faire le bien. Des associations de bonnes œuvres. On juge quelqu'un à l'œuvre. On juge quelqu'un selon ses actes. C'est des définitions du dictionnaire. On se met à l'œuvre. On commence un travail. Œuvrer, c'est travailler d'une manière désintéressée, sans attendre un résultat financier. Pour un chrétien, œuvrer, je pense que ça doit être naturel parce qu'on sait que de toute façon, le bénéfice que l'on a, eh bien, c'est d'être avec le Seigneur à la fin. J'ai employé un autre mot, vertu. La vertu, c'est une disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal. Et on dit que la vertu, c'est une qualité chrétienne. C'est une qualité. Être vertueux, vertueuse, c'est qui fait le bien par volonté, qui est inspiré par le bien. Alors, je n'ai pas donné la définition du mot « rôle ». Alors, qu'est-ce que un rôle ? C'est entre autres, je ne vais pas donner toutes les définitions parce que pour moi, il y en a qui ne sont pas intéressantes, mais celle-ci m'a interpellé, c'est l'ensemble des droits et des obligations d'un individu dans un groupe. Ouais. Je répète, la définition du mot rôle, c'est l'ensemble des droits et des obligations d'un individu dans un groupe. On va aller dans Paul aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. 1 Thessaloniciens 1, verset 3, où il nous est dit, nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté que votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour assurer ce rôle de pierre vivante dans l'Église, pour œuvrer pour Dieu, on voit deux choses. Il faut avoir la foi, enfin trois choses. Il faut avoir la foi, de l'amour et de l'espérance. Il faut avoir cela parce que des choses qui nous semblent impossibles, infaisables, vont nous être demandées. Je vous annonce ça. Ça m'a été transmis. C'est quelque chose qui... Alors, ce qui veut dire que les œuvres et la foi sont liées. Et il y a un passage qui nous l'explique dans la parole. C'est dans Jacques 2, le verset 14 notamment, où il nous est dit, Jacques 2, verset 14, « À quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ?» Et la question est, cette foi peut-elle sauver ? Une foi sans les œuvres. Au verset 17 du même chapitre, il nous est dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Au verset 18, « Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Alors ça paraît compliqué comme ça quand on le lit, mais quand on malaxe ces paroles, elles sont claires. On a la foi et on ne fait pas d'œuvre. Mon avis, on loupe quelque chose. On fait des œuvres sans avoir la foi. On peut faire des œuvres sans avoir la foi. Les personnes non chrétiennes qui ont de l'argent donnent. Bon, souvent, c'est pour réduire leurs impôts aussi, mais bon, ils donnent, ils font des œuvres, ils aident des associations, mais ces œuvres sont mortes. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles n'apportent pas d'âme, de pierre vivante au Seigneur. Les œuvres du chrétien doivent être faites pour amener les personnes au Seigneur. Au verset 20, il nous est dit, « Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ?» Et oui, si on a la foi, si on rencontre Dieu et que l'on reste là, à ne rien faire pour lui amener des pierres vivantes. On ne joue pas le rôle que l'on doit avoir, qu'il nous a demandé d'avoir. Au verset 22, tu vois que la foi agit avec les œuvres, et par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Au verset 24, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Mais il faut avoir les deux. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de personnes qui, peut-être pour se donner bonne conscience, aide des œuvres, mais pas avec l'idée d'amener des personnes à Christ. Et ça, c'est stérile. C'est quelque chose que l'on voit. À la limite, il le montre. Regardez, j'ai donné. Mais c'est pour être mis en avant, mais rien d'autre. Il faut les deux, j'ai dit, la foi et l'œuvre. Si les œuvres n'apportent pas de nouvelles pierres vivantes à Dieu, c'est stérile. Je me répète, mais... Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé. J'ai trouvé que l'image était... C'est une vérité, mais ça peut être aussi une image sur un navire. On peut définir deux parties. La première, que l'on appelle œuvre morte. Et l'œuvre morte, c'est la partie qui est émergée du navire, celle qui est au-dessus de la surface de l'eau, celle que l'on voit. Et il y a la deuxième partie qu'on appelle, que les techniciens appellent l'œuvre vive. C'est la partie de la coque qui est située au-dessous de la ligne de flottaison, dans l'eau. Cette partie, pour eux, est dite vitale, parce qu'elle permet au navire de se déplacer. J'ai trouvé ça magnifique et plein de... Je me dis, bon sang, quelle belle image. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce que l'on voit qui est bénéfique. Donc on peut en déduire qu'il y a des œuvres mortes qui n'apportent rien, car effectuées sans la foi. Je vais venir au troisième rôle de l'Église. Alors je ne sais pas s'il y a un ordre hiérarchique, je dirais. Ça m'est venu comme ça. Le troisième rôle de l'Église est d'apporter la parole, l'Évangile, d'apporter la bonne nouvelle, de la répandre. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, il nous est dit, 1 Thessaloniciens 1, 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous sommes des élus. Nous sommes des pierres vivantes, mais des pierres choisies. On a chacun notre place. On est élus. Au verset 6, il nous est dit de ce même chapitre, « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole. » Au verset 7, il nous est dit, « Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. » On a un rôle important. On a un rôle important. On est des élus, on a été choisis, et on a ce rôle, être des modèles pour tous les croyants. Donc, quand je lis ça, je comprends que imiter le Seigneur, c'est aussi notre rôle. Alors, je me suis dit que lorsque le monde comprendra que dans toutes les situations que l'on vit, Jésus-Christ est la solution, il se passera quoi quand ils auront pris cette conscience, quand ils auront cette révélation ? Eh bien, je me dis qu'il y aura affluence dans les bâtiments, qu'ils viendront chercher cette paix, cette solution, qu'ils viendront rencontrer le Seigneur, parce que c'est lui la seule solution. Il y aura affluence, mais est-ce que nos bâtiments seront assez grands pour les accueillir ? Alors j'ai cherché en quoi on pouvait imiter Jésus. Et j'ai trouvé ce passage de la multiplication des pains. Et en le lisant et relisant, il y a vraiment des choses qui me sont apparues. Par exemple, dans Matthieu 14, verset 13, Matthieu 14, verset 13, on connaît tous ces passages, mais comme le dit souvent Jean Robert, des fois il faut ruminer les choses, les prendre et les ruminer. Qu'est-ce que l'on nous dit dans ce verset ? Jésus se retire à l'écart, la foule l'apprend, quitte les villes et le suit. Au verset 14, on nous dit qu'il y a une grande foule. En fait, ils sont 5000 hommes, non compris les femmes et les enfants. Et là, Jésus, on nous dit qu'il a compassion. Alors, qu'est-ce que la compassion ? C'est un sentiment qui rend sensible aux maux d'autrui. Et Jésus guérit les infirmes. Je pense que l'on a encore du chemin pour nous, qui sommes des élus, pouvoir dire à une personne, tu es guéri, il faut qu'on s'adresse au Seigneur. Mais comme ça, je pense qu'on a encore du chemin pour... On a encore à faire grandir notre foi pour arriver à ça. Donc Jésus, je dirais, entre en action, il guérit des infirmes, il a de la compassion. Et le temps passe, la nuit arrive, et les disciples veulent renvoyer les foules pour qu'elles s'achètent de la nourriture. Et au verset 16, Jésus dit, « Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. » Et qu'est-ce qu'ils ont ? 5 pains et 2 poissons. Mais, vous le savez, Jésus intervient, s'adresse à Dieu, au Père, et il y a assez de nourriture pour toutes les personnes présentes. Dans Matthieu 15, verset 32, là on voit que c'est la deuxième multiplication des pains. Les personnes qui ont suivi Jésus sont restées 3 jours avec lui. Et ils n'ont pas de quoi manger. Et que nous dit Jésus ? Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Là aussi, il a de la compassion, mais d'une autre manière. Il a parlé avec eux, il les a enseignés pendant 3 jours. Ils l'ont écouté. Il les a nourris spirituellement. Et là, il veut passer à une autre étape. Parce que c'est vrai qu'il nous a dit « Tu ne vivras pas de pain seulement. » Il ne nous a pas dit qu'on ne vivra pas sans pain. On voit aussi, dans un autre passage qui relate cette multiplication des pains, c'est dans Luc 9, le verset 17, que Jésus les accueillit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il les reçoit, qu'il les accepte. Et il leur parle du royaume de Dieu. Il guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Alors, quand j'ai lu ce passage, quand je l'ai relu et relu, je me suis dit que nous avons ici plus d'informations sur notre rôle. Parler du royaume de Dieu, oui, la nourriture spirituelle, Oui, importante. La nourriture de l'esprit, oui. C'est notre rôle. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous avons aussi le rôle d'apporter une nourriture solide, ceux qui viendront, de ne pas les laisser repartir à vide, si je puis dire. Le ventre vide. Dans Jacques 2, versets 15 et 16. Vraiment, tous les passages que je vous lis ont une importance. Jacques 2, chapitre 2, versets 15 et 16. Il nous est dit, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » De leur avoir parlé, de leur avoir annoncé la parole de Dieu, si on ne remplit pas cet autre rôle. Là, dans ce passage, on nous parle de nourriture et aussi de vêtements. Alors, tout à l'heure, je parlais de nos frères de l'église du Blanc-Mesnil qui ont perdu leur bâtiment. C'est vrai que pour assurer pleinement notre rôle, il faut de nos jours avoir un lieu adapté. Un lieu adapté pour recevoir ces personnes qui vont se présenter. Parce qu'elles vont se présenter à un moment, à toute époque, ça a été comme ça. Quand il y a eu des dangers, des choses impossibles à contrôler, les hommes sont revenus vers les églises. On va aller dans Agée, ce que nous dit le prophète Agée. Je résume. Alors que le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie, l'Éternel leur dit, par l'intermédiaire du prophète Agée, il leur dit de réfléchir. Réfléchissez. Je vous rappelle que c'est l'époque où le temple a été détruit. Il n'y a plus de temple, c'est une ruine. Dans Agée, chapitre 1, verset 4, il nous est dit, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées ?» Là, on parle de nous et de tous les autres. « Quand cette maison, le temple, est en ruine. » Est-ce que l'on n'habite pas, est-ce que l'on n'est pas réuni dans un temple en ruine ? Au verset 6, il nous est dit, « Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. » Moi, je parle souvent de Dieu autour de moi. Et c'est vrai que beaucoup de personnes me disent « Oh oui, on va venir. Oh, c'est super. » Mais je ne les vois pas. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont comme moi. Bon, il y a des résultats, plus ou moins. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « Moi, j'ai apporté tant de personnes. » Enfin, je ne sais pas si on les compte, en fait, quand on joue vraiment notre rôle. On a la joie de les voir. Je pense qu'on ne les compte pas. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Autrement dit, vous avez répandu la parole sans grand résultat. Au verset 8, il nous est dit, toutes ces paroles, en fait, c'est Dieu qui les transmet à Agée. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié. C'est ce que dit l'Éternel. Alors c'est vrai que quand j'ai écrit ce passage, retranscrit ce passage, j'ai pensé à la réunion de prière de mercredi dernier, où j'ai eu cette révélation d'une quantité de fourmis qui arrivaient apportant des brindilles pour construire la fourmilière. Il y en avait aussi qui apportaient de la nourriture pour ceux qui travaillaient sur cette fourmilière. Je me suis dit, oh là, vraiment les chemins que Dieu nous fait prendre sont surprenants. Alors c'est vrai que dans Agée, toujours, les versets 9 à 11, Dieu n'est pas satisfait du travail réalisé, car sa maison est en ruine. Alors c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, attention, là on a affaire à Dieu, c'est le grand patron. On peut avoir de la crainte, se dire mince, il nous a demandé de faire quelque chose et nous n'avons pas joué notre rôle. Mais au verset 13, l'Éternel rassure, il nous dit, moi je suis avec vous. Et au verset 14, on voit qu'il nous est dit, l'Éternel éveille l'esprit du peuple et de ses dirigeants. Ça me fait penser au message de Lionel dimanche. Il nous a dit qu'il fallait que l'on reste éveillé. On ait toujours la lumière allumée, en quelque sorte. Et là, dans Agée, il nous est dit qu'il se mette à l'œuvre, au travail, dans la maison de l'Éternel. Dans Agée 2, verset 3, il y a une question qui est posée, et il est dit, qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Et après, il nous est dit, fortifie-toi. Et c'est dit plusieurs fois, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Et travaillez, car moi, je suis avec vous. Mon esprit se tient au milieu de vous. Soyez sans crainte. Parce que je pense qu'on va nous demander des choses qu'on n'imagine pas, qui vont nous paraître, avec notre esprit humain, déraisonnable peut-être. Dans le verset 9, il nous est dit, la gloire de cette dernière maison, celle que l'on doit construire, sera plus grande que celle de la première. On va avoir une sacrée tâche. Mais Dieu est avec nous. Il est avec nous. Dans les versets suivants, l'Éternel nous demande de réfléchir. Il nous dit, réfléchissez donc. Et moi, je me dis, il faut que l'on se tourne vers lui, qu'on lui demande notre chemin, qu'on lui demande ce qu'il veut. Et cela, c'est par la prière et en prenant connaissance de sa parole. C'est comme ça que l'on aura les réponses. Parce qu'il ne veut pas que l'on reste des pierres mortes. Il veut que l'on soit des pierres vivantes. Je voudrais revenir sur le mot « œuvre ». Dans les définitions du dictionnaire, on parle de gros œuvre. Le gros œuvre, c'est l'ensemble des éléments de construction d'un édifice qui en assure la stabilité, la résistance et la protection. Et il y a une autre partie, c'est le second œuvre. C'est l'ensemble des ouvrages complétant une construction pour sa fermeture, sa distribution, ses revêtements, son intérieur. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'emploie souvent ce mot, je m'en suis rendu compte. Cette pensée m'est venue. Yolande et Jean-Robert et ceux qui se sont joints à eux ont édifié le gros œuvre. Ils ont édifié le gros œuvre. Il est solide. Ils l'ont édifié sous la conduite de l'Éternel. Ça ne s'est pas fait comme ça, ils en ont témoigné. Alors je me dis à nous et à ceux qui viendront par la suite d'édifier le second œuvre, sous la conduite de l'Éternel aussi. Préparons-nous. Je pense qu'il faut que l'on réfléchisse à ce que l'on doit faire, comment on doit se répartir les tâches, parce qu'un seul ne pourra pas. Il faut que l'on soit tous unis, que l'on soit tous ces pierres qui s'assemblent, qu'on soit des pierres de parement ou des pierres de remplissage. C'est une lecture m'est revenue à l'esprit. C'est dans Actes 5 et 6, chapitre 5 et 6, fin du chapitre 5 et début du verset 6, où il nous est dit que les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle, et il leur est reproché de négliger les veuves dans les distributions de chaque jour. Donc, ils en ont conscience, ils ont ce reproche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent qu'un deuxième groupe soit créé pour servir à table. Ce qui laisse au premier groupe la possibilité de continuer à s'investir dans la prière et dans le ministère de la parole. Nous avons des tâches différentes. Et je pense qu'on doit se réveiller. On doit chercher quelle tâche le Seigneur veut. Peut-être que certains d'entre vous ont des aptitudes pour trouver des vêtements, d'autres pour cuisiner. Parce que c'est ce qui va arriver. Les industries, beaucoup d'entreprises sont mal. Il y a des choses qui ne pourront plus être produites. Mais il y aura de la demande. Et on ne pourra pas seulement dire « va en paix ». Après avoir annoncé la parole, il faudra aller plus loin. Je pense que vraiment, il faut que l'on s'interroge là-dessus. J'ai un exemple. Je ne connais pas cette église. Mais ce dont j'entends parler sur elle, c'est que Ben, aujourd'hui, dans un pays qui est sous domination islamique, des hommes et des femmes ont la révélation de Dieu. Ils descendent des montagnes vers la vallée. Dans cette vallée, il y a une église. Et si cette église, quand je parle de l'église, c'est pas uniquement, c'est pas le bâtiment, hein, c'est des pierres vivantes, c'est d'autres hommes et d'autres femmes qui les accueillent. Et si ces pierres ne sont pas vivantes, je pense que les personnes qui descendent de ces montagnes, eh bien, elles ne resteraient pas dans cette église. Alors c'est vrai, c'est compliqué, mais Dieu est avec nous. Sa parole est une lampe à nos pieds. Ce qui pour moi veut dire que personnellement, nous sommes éclairés. Elle est à nos pieds, donc on nous voit. Nous sommes lumineux, nous devons être lumineux pour les autres. Sa parole est une lumière sur notre sentier. Pour moi, ça veut dire que le chemin est éclairé, celui que l'on doit prendre. Et que cette lumière nous révèle le but qui est au bout du chemin, le rôle que l'on doit avoir. Ça nous donne une perspective. Il faut arrêter de regarder à nos pieds. Je regarde à mes pieds aussi, hein. Je ne parle pas... Alors, on a quelques encouragements et conseils. On peut aller dans Nombre 11, verset 23. Nombre 11, verset 23. Où l'Éternel répond à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Et l'Éternel continue et dit à Moïse, tu verras maintenant si oui ou non, ce que je t'ai dit arrivera. Dans Proverbe 16, les versets 3 et 4, il nous est dit, Proverbe 16, versets 3 et 4, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but. » Alors, sur le coup, ça me paraissait pas, j'arrivais pas à comprendre. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour sa réponse, pour un but qui lui corresponde, pour un but qu'il souhaite. C'est pas, on recommande nos œuvres, mais le Seigneur va nous guider sur le cheminement que l'on aura à prendre. Je vous dis, réfléchissons, tournons-nous vers Dieu, demandons son conseil, ouvrons nos yeux, nos oreilles. Parce que moi, je voudrais du fond de mon cœur que le Seigneur nous dise ce qui est dit dans Apocalypse 2, verset 19. Je voudrais que le Seigneur dise à l'Église, aux pierres vivantes que nous devons être, je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Je pense que le bateau coule. Le monde dans lequel on est en train de couler. Dans un précédent message, je vous avais parlé du Titanic, ce bateau que tout le monde disait insubmersible, et un petit glaçon l'a fait couler. Il n'y avait pas assez chaloupe de sauvetage, puisqu'il était insubmersible. Quand le bateau a coulé, des chaloupes ont été mises à l'eau. Un certain nombre de personnes sont montées dans ces chaloupes, mais elles n'étaient pas pleines. Plein de personnes, vous avez sûrement vu le film, plein de personnes se sont retrouvées dans l'eau glacée, dans l'eau sombre. Elles se sont débattues comme elles ont pu. Certaines se sont accrochées à des débris, mais elles n'ont pas été sauvées. Nous sommes dans les chaloupes. Nous avons ce privilège parce que nous sommes les élus. Nous entendons leurs cris, mais nous devons y aller. Nous ne devons pas attendre qu'il n'y ait plus de cris pour aller les secourir. Tant pis si nos chaloupes sont remplies, débordent. Nous avons les chaloupes. À nous d'agir, à nous d'y aller. Voilà, c'était le message que je voulais vous donner. On n'est pas là uniquement pour louer le Seigneur. C'est important parce que ça nous glorifie. Ça nous fortifie plutôt. Ça nous fait grandir. Mais le Seigneur a un rôle pour nous, pour l'Église, pour les pierres vivantes. Je vous demande d'y réfléchir parce que c'est ce que le Seigneur veut. Quelle direction on doit prendre ? Comment on doit l'apprendre ? Il faut s'en remettre à lui. C'est vital. C'est notre rôle. Sinon, on nous en tiendra rigueur. Il nous en tiendra rigueur. Il nous dira qu'on a semé, mais qu'on a peu rapporté. On a beaucoup semé, mais peu rapporté. Parce qu'on n'a peut-être pas semé comme il le voulait, à l'endroit où il le voulait. Voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre ce matin.
Merci Marc pour cette parole. Alors, on parle de le passage de « Vos maisons sont lambrissées » et nous, ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, regardez bien le bâtiment, on va devoir enlever toutes les tentures. On va devoir le mettre à nu parce qu'elles sont pleines de poussière. Donc autant dire qu'elles sont plus ignifugées. Donc on va mettre à nu ce bâtiment, et l'une des choses aussi que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est de faire le ménage du bâtiment. Parce que nous avons été bénis, puis on a entassé des choses à droite, à gauche, il y a des bonnes choses, et d'autres qui n'ont plus leur place ici. Moi je vois, j'en ai profité, moi j'ai stocké 2-3 trucs qui sont à moi, donc il va falloir que je les récupère, parce que je n'avais pas de place chez moi. Mais je crois que c'est une image spirituelle de ce que nous devons vivre dans notre vie. C'est que si on veut que le Seigneur prenne de la place, si on prend l'image d'une bouteille, il faut déjà enlever le bouchon. Mais si la bouteille elle est pleine, il faut la vider pour la remplir. Et c'est la même image. Si on veut que le Seigneur prenne plus de place dans nos vies, il va falloir se débarrasser de certaines choses ou faire de la place. Faire de la place. Voilà. Donc, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et on a le Dieu de miracles. Ça fait quelque temps que je prie pour... je vous exhorte à la prière. Je prie pour que vraiment le feu du Saint-Esprit puisse descendre dans vos vies. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il est compliqué d'avancer. C'est compliqué d'avancer, vu que c'est lui qui nous révèle la parole, c'est lui qui nous exhorte. Alors, je vais arrêter d'en parler, mais je vais inviter pour ceux qui veulent que l'on prie pour vous. Alors, c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Je ne suis là que pour servir l'Éternel en tant que serviteur de Dieu, mais de s'attendre à l'action de Dieu dans vos vies Et nous voulons nous associer pour mettre en conformité de la parole qui dit « Si deux s'accordent pour demander au Père, il est fidèle et juste pour vous l'accorder. » Donc, pour ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, eh bien, je vais vous inviter à vous avancer et on va prier pour vous. Et pour aller même plus loin, on fera un deuxième et on priera pour ceux qui veulent, pour les malades. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois à la toute-puissance de la parole de Dieu. Et si vous avez besoin que l'on prie pour vous, je l'ai dit tout à l'heure, ben je veux le mettre en pratique par obéissance. Et je veux m'attendre à l'action de Dieu dans vos vies. Amen. Donc je vous invite à baisser la tête. Et ceux qui veulent que l'on prie pour vous, ben je vais vous inviter à sortir des rangs et à vous avancer. Et on va prier pour vous. Merci Seigneur pour...